Grandeur publique. Voilà pour l'info, excellente matinée.
Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Bonjour à vous. Alors, vous avez dû vous en rendre compte, n'est-ce pas? L'été est fini, mais bien fini là. Hein, mais peu importe, je vais encore vous donner ma petite astuce pour vous remonter le moral et vous mettre de bonne humeur. Et justement, profitez de ces premiers jours d'automne pour écouter les oiseaux. Et oui, il y a même les mésanges qui sont revenus. Alors pas besoin de vivre à la campagne pour les écouter gazouiller. La mélodie des étourneaux, des moineaux et même des pigeons ou des tourterelles peut égayer ce qui ressemble parfois à une jungle urbaine morose. Michel Fugain sur Radio Plus. Alors, dans l'air du temps et dans notre rubrique Sale temps sur la planète, avec Jean-Louis Houette, président de l'Extrême Nature, nous dénoncerons le projet du géant pétrolier Total qui s'apprête à construire le plus grand pipeline chauffé au monde, et ce, au cœur de l'Afrique. Alors, nous avions expliqué la semaine dernière le terme écocide. Eh bien, en revoilà un bel exemple et on vous expliquera pourquoi. On retrouvera ensuite Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, pour quelques travaux à faire dans notre jardin. Et oui, de ce temps-là, on a quand même le droit de prendre l'air. Et puis ensuite, nous parlerons aussi de la Journée nationale de la rage qui a lieu aujourd'hui, mais surtout de la Journée nationale du droit à l'avortement qui a été voulue à cette même date par le gouvernement français.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre. Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre. C'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Anne Sylvestre sur Radio Plus. Alors tout à l'heure, nous parlerons de cette journée du droit à l'avortement, un acte médicalisé et qui n'est pas anodin, comportant des risques médicaux et psychologiques, mais qui fait partie, selon moi, du droit des femmes. Et justement, alors parlons-en du droit des femmes. C'est dans l'air du temps. Depuis 10 jours, la France se demande si les filles ont le droit de s'habiller comme elles le veulent. Et un mouvement féministe a émergé sur les réseaux sociaux appelant les lycéennes à s'habiller comme elles le souhaitent pour dénoncer les règlements intérieurs des établissements qu'elles jugent sexistes. Elles trouvent aberrant que des membres de l'éducation nationale se permettent de sanctionner des élèves à cause de leur tenue. C'est un mouvement qui commence à prendre un petit peu d'importance et cela me rappelle les témoignages sur le pantalon pour femmes qui a longtemps été jugé obscène. Alors, c'est plutôt marrant, c'est polémique, parce qu'il est vrai que par respect, on doit aller au travail ou en classe, ou dans certaines assemblées d'ailleurs, avec une tenue, je dirais, adéquate. C'est une question de bon sens. Maintenant, de là à adopter une tenue républicaine, quoique, ne sortons surtout pas cette phrase de son contexte, comme l'ont fait la plupart des médias, maintenant il y a sans doute une chose à faire, protégeons nos filles et surtout éduquons nos garçons et arrêtons de dire que qu'avec telle ou telle tenue, les filles provoquent les garçons. Car c'est cette phrase qui est grave, car elle engendre beaucoup, beaucoup d'a priori.
Je pense à toi, mon amour, quand tu fouilles ton placard, quand t'hésites tous les jours, entre un jean, une robe noire, tu te poses la question, est-ce qu'on va m'emmerder? Et c'est le genre de question que tu devrais pas te poser. Je pense à toi, mon amour, quand tu marches dans la rue, tu fais semblant toujours d'avoir rien entendu. Et t'accélères le pas, on te siffle, on t'insulte, et ça joue les gros bras, et ça se dit adulte, et ça se dit adulte. Je pense à toi, mon amour, quand tu rentres en métro, avec tous ces vautours, aux instincts d'animaux. Je voudrais prendre ta place, que t'es plus à subir ces regards dégueulasses qui t'empêchent de dormir. Je pense à toi, mon amour, mais je suis bien impuissant. La connerie court toujours et elle me glace le sang. Mais dans quel monde vit-on pour qu'une femme se demande ce qu'elle peut porter ou non sans devenir un bout de viande? Sans devenir un bout de viande. Excuse-moi, mon amour, pour ces heures de dilemme. Tu trouves pas ça trop court? Est-ce que je la mets quand même? La liberté d'une femme est à jamais absente dès lors qu'elle s'interdit d'être une femme élégante. Excuse-moi, mon amour, pour cette flopée d'embrouilles. Ça cache presque toujours un sacré manque de couilles. Ça pourrait être leur sœur ou leur fille sur cette route. Quand on insulte une femme, on les insulte toutes, on les insulte toutes. Excuse-moi, mon amour, d'être de la même espèce que ces coqs de basse-cour, que ces sales brutes épaisses. Mais la tendresse d'une femme sera toujours plus belle que la bêtise infâme des hommes sans cervelle. Excuse-moi, mon amour, excuse-moi pour toutes celles, celles qui flippent au détour d'une sombre ruelle. La liberté d'une femme, qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, la liberté d'une femme, ça vaut tout l'or du monde.
Gauvin sincère sur Radio Plus. Alors, ce qui est bien avec la radio, voyez-vous, c'est que le vêtement n'a pas d'importance. Et on retrouve tout de suite Jean-Louis Ouatté, président de l'Extrême Nature.
Sale dans sur la planète. Oh, le drôle, drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Vous n'êtes plus en pyjama là, attention, hein, parce
non,
que maintenant il faut
non,
faire
non,
attention
ça...
à sa tenue. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Alors la semaine dernière, Jean-Louis, nous avons expliqué le terme écocide. Alors je rappelle que c'est la destruction des milieux naturels et que de plus en plus, ceci est considéré comme un acte criminel lorsque cette destruction est un acte délibéré et qu'elle atteint la totalité d'un écosystème. Alors que ce soit par le puisement complet des ressources d'une zone, de la mise en danger de son milieu et des organismes qui y vivent, c'est-à-dire la flore, la faune ou même les humains, ou du trafic international d'espèces protégées qui y sont installées. Vous voyez, j'ai bien retenu ma leçon, Jean-Louis.
Tout à fait.
Alors, vous nous avez cité quelques exemples et je relève notamment celui de cette multinationale Texaco Chevron, une compagnie pétrolière qui a souillé la forêt amazonienne pendant plus de 30 ans. La terre est polluée, il y a même encore des mares de pétrole pestilentiel gisant dans la région équatoriale de Lago Agrio, à la frontière avec la Colombie. Des preuves ont été apportées que Chevron a causé des dommages conséquents, non seulement aux écosystèmes naturels, mais aussi à la culture millénaire des peuples autochtones. Leurs produits toxiques sont à l'origine de problèmes de santé, de malformations congénitales, de cancers dans les communautés locales. On constate que rien ne fait peur aux compagnies pétrolières et il faut donc se battre, Jean-Louis, pour ce qui s'annonce. C'est-à-dire que le géant pétrolier Total s'apprête à construire le plus grand pipeline chauffé du monde au cœur de l'Afrique, avec là aussi tout ce que cela engendre. Et il y a à dire, n'est-ce pas Jean-Louis ?
Oui, tout à fait. Là, on est vraiment au cœur des grandes contradictions de notre temps. Hein, on s'aperçoit qu'on parle beaucoup du changement climatique, avec la banquise qui fond, les problèmes liés... Au pétrole, au gaz, c'est-à-dire à tout ce qui provoque justement ce réchauffement climatique, hein, et donc on voit bien que avec ce projet de Total, on est en complète contradiction avec les évolutions à prendre, et puis en plus au cœur d'un continent qui souffre, qui est quand même touché par ces problèmes, hein, puisque on voit des zones de désertification qui s'accentuent. Et donc, franchement, quand on voit ça, on est quand même inquiet et on se pose des questions. On voit très bien que le discours est toujours le même. Hein. L'économie passe avant le bien-être, passe avant le soin de la planète. Et ça, on ne peut que le regretter.
Alors, justement, ça, c'est un bel exemple d'écocide.
Bah oui, on s'oriente vers... Hein, on ne peut pas dire qu'on a un écocide parce que on n'a pas les preuves. C'est là la grosse difficulté des écocides. Hein, c'est que, pour le démontrer, il faut attendre que malheureusement la catastrophe arrive. Mais on se dirige justement vers cette catastrophe et donc on regarde impuissant ces grandes multinationales. Là c'est une française, hein, mais on a vu avec l'exemple de Texaco que y avait des américaines. On voit bien ce qui se passe aussi aux États-Unis dans tous les États-Unis avec les gaz de schiste, hein, les catastrophes qui sont en train de se mettre en place. On voit aussi au niveau, on a des reportages multiples et nombreux, et malheureusement, ça continue au nom de la sacro-sainte économie. Alors oui, c'est vrai qu'il faut être vigilant, mais il y a quand même des pistes, des orientations nouvelles à prendre, et on les prend pas, quoi.
Et qu'aussi, bien sûr, avec disparition de la faune, et puis aussi, bien sûr, ils vont empiéter sur les terrains, les territoires occupés par les hommes, bien sûr.
Tout à fait, hein. Je pense que c'est aussi une destruction de la faune et de la flore et puis de la flore et puis modification des climats, des microclimats qui vont engendrer des micro-changements climatiques. Mmh. Et c'est là où on voit poindre les désertifications, hein. Et donc c'est plus qu'inquiétant.
Alors, comme vous l'avez dit, Jean-Louis, en plus, c'est ajouté un péril à un peuple qui est déjà en péril, puisque, comme chacun sait, l'Ouganda, puisque c'est là que ça se passe, l'Ouganda est un petit pays autoritaire où le président Yoweri Museveni règne sans partage depuis 1986. Alors, en pratique, les enquêtes du terrain de survie et des amis de la terre montrent que les conséquences pour les populations locales sont déjà graves en termes d'alimentation, de santé, de présence des enfants à l'école. Alors, les ONG ont déjà assigné Total devant la justice française pour manquement présumé à la loi sur le devoir de vigilance dans ses activités en Ouganda. Alors, le devoir de vigilance, je ne sais pas, vous savez ce que c'est ?
Bah, le devoir de vigilance, c'est en fait, disons, ce qui doit précéder toutes les études et les implantations, hein. C'est un petit peu les enquêtes préalables, c'est-à-dire enquête de devoir de vigilance pour les populations. Et donc, mais ça, malheureusement, c'est souvent laissé de côté. Sur un autre sujet d'actualité, on voit bien que avec la 5G, ce devoir de vigilance, il n'a pas du tout été réfléchi, hein. Donc, je ne veux pas me lancer dans le débat sur la 5G, mais on est bien dans le même registre, hein. Mmh. C'est que la vigilance doit primer. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Et puis dans ces pays, j'ai encore vu un reportage hier sur, c'est sur le Congo, à Kinshasa. Quand on voit la misère, quand on voit ces reportages sur la misère dans les grandes villes, et c'était à Kinshasa, on reste assis, hein. Et donc oui, il y a vraiment un devoir de vigilance pour ces populations. Heureusement, on a quelques lueurs d'espoir, hein, quand on voit aussi c'était au Sénégal, hein, des ONG, des petites ONG qui se mettent en place pour justement faire de l'agroforesterie. Et je crois que ça donne quelques signes d'espoir. Malheureusement, c'est des petites gouttes.
Mmh. Alors, vous m'entendez, Jean-Louis ?
Oui, je vous entends.
Ah voilà, parce que moi, j'avais l'impression que le micro posait problème. Alors en tout cas, je vous remercie. Alors, nous sommes souvent sollicités, hein, justement pour signer des pétitions. Et là, entre autres, nous sommes sollicités pour pour signer contre ce pipeline. Alors je crois quand même que celle-ci vaut le coup qu'on s'y attarde.
Oui, tout à fait, hein. Je pense que là, il faut y participer parce que c'est quand même, malheureusement, il faut qu'on montre que on est quand même très très inquiet, même plus, on est un peu scandalisé par cette fuite en avant dans des pays qui sont vraiment comme l'Ouganda, qui sont déjà marqués par disons une vie catastrophique et qui vont l'être encore plus, hein, avec ces risques d'écocide. Mmh.
Et puis à mon avis, peut-être faudrait-il ne pas prendre son essence n'importe où.
Bah oui, je pense que là,
faire attention à l'enseigne.
Au cœur du porte-monnaie, je pense que c'est là où,
voilà,
hein, c'est là où ça fait le plus mal généralement et ça fait bouger les choses.
En tout cas, Jean-Louis, merci. Je vous souhaite une très bonne semaine.
Merci, bonne semaine.
À lundi prochain.
À lundi prochain.
Merci, Jean-Louis.
Au revoir.
Au revoir.
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même. et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pris ses citrons, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pris ses citrons, on peut jeter la peau. Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite. De noir bien blanchi, le monde blanc rigole. Les nouveaux, c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que la terre produit pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis. Que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent, les colons sont partis, avec dans leurs bagages quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues, ils se ressemblent tous avec leurs passe-montagnes. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur, là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir, dans les foyers taudis, on vit dans le sordide. Et puis un jour la crise nous envahit aussi, qu'on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux. Qu'on leur donne un pourboire, faut être libéral. Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal. Ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes. Ils retournent faire les singes dans leurs cocotiers. Tous nos bons nègres à nous, qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'à rien les amuse. Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
François Béranger sur Radio Plus. Alors on retrouve sans plus attendre Bertrand Trinel pour prendre un bon bol d'air. Et de l'air, eh bien on n'en manque pas en ce moment. On pourrait même chanter Vive le vent, et on pourrait même chanter Vive la pluie.
C'est un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors eh bien nous voici en automne, après avoir profité d'un bel été indien, et ça y est Bertrand, la pluie a fait son apparition, mais il y a bien un dicton qui dit « septembre à sa tournure ». Vous m'entendez bien Bertrand?
J'entends très loin.
Oui, ben j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le micro. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le micro, ouais. Donc, il y a un dicton qui dit « Septembre à sa tournure, de mars fait la figure. Forte chaleur en septembre, à pluie d'octobre, il faut s'attendre. » Donc finalement, cette pluie, c'est normal. Et Dieu sait si le sol en a besoin.
Ah oui, effectivement. Bon, même si elle arrive un peu tard, le jardinier est jamais content, mais c'est une superbe chose. On aurait préféré quand même l'avoir un peu plus en juin, un peu plus en juillet, pour que les légumes poussent mieux, pour que les plantes se portent mieux. Mais bon, on va faire avec maintenant. C'est très bien.
Alors Bertrand, à vous, le grand spécialiste de la tomate, peut-on demander ce que l'on peut faire avec ces dernières tomates qui sont encore sur le pied et qui sont encore vertes ?
Alors, on peut bien sûr les laisser encore sur le pied encore un petit peu, les laisser mûrir. Bon, il y a des jardiniers qui préfèrent les cueillir pour les laisser mûrir à l'intérieur, bien enveloppés individuellement dans du papier journal, ça mûrit bien. Et c'est vrai qu'avec toute cette pluie qui vient de tomber, le mildiou pourra bien sévir rapidement, hein, donc ils n'ont peut-être pas tort. Par contre, si vous êtes de ceux-là, attention, parce que les tomates non matures et encore vertes contiennent beaucoup de solanine. La solanine, c'est très toxique, c'est une substance très toxique, dangereuse pour la santé, qui peut provoquer de dangereuses intoxications, donc méfiez-vous quand même. Hein. Donc si vous récoltez les tomates vertes et matures dans le but de les faire mûrir à l'intérieur, le processus de transformation en sucre n'ayant pas commencé, vos tomates vont quand même prendre la pigmentation, leur coloration, mais la solanine sera toujours présente, donc ce sera dangereux de les manger. Alors, si vous voulez rentrer vos dernières tomates pour les laisser mûrir, attendez absolument que le processus de pigmentation soit commencé. Dès qu'elles commencent à se colorer un peu, vous pouvez les rentrer. Alors, bien sûr, il existe des tomates qui, à maturité complète, sont vertes, hein, comme l'absinthe, la graine zébroque, tout le monde connaît, la verte de Huy, il y en a plein comme ça. Hein. Hein. Mais il faut savoir que la solanine est aussi présente dans la pomme de terre. Lorsque vous avez laissé vos pommes de terre à l'air libre, elles verdissent. L'aubergine contient également de la solanine. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais manger d'aubergine verte, crue, on la mange cuite. Voilà, donc méfiez-vous, laissez commencer à mûrir vos tomates, enfin à prendre la coloration de vos tomates avant de les rentrer pour les faire mûrir à l'intérieur.
Alors, il paraît que l'on peut en faire des confitures, c'est vrai Bertrand ?
Alors oui, effectivement, on peut en faire des confitures de tomates vertes. Hein. Il n'y a pas de risque puisque la solanine va se dégrader à la cuisson. Mais vous pouvez également faire des confitures de tomates bien mûres. Vos confitures selon les variétés de tomates, hein, des rouges, des verts, des noirs, autre chose, des oranges ou des jaunes, auront des couleurs tout à fait différentes. Donc essayez, vous allez voir, c'est très bon des confitures de couleurs différentes avec les tomates.
Alors, justement, est-il vrai aussi que c'est un bon moment pour faire des graines de tomates ?
Oui, alors je dirais que si vous avez encore de belles tomates, vous pouvez toujours récolter des graines. Hein. Chez nous, la récolte de graines est quasiment terminée. Alors, attention, on ne va pas récolter des F1, car si vous les ressemez, vous n'obtiendrez que très peu de tomates identiques à celles que vous aurez... très peu de tomates identiques à celles dont vous aurez extrait les graines. Pardon. Pour votre récolte de graines, pour que votre récolte de graines produise des plants identiques, fidèles à la plante mère, il faut absolument récolter des graines de tomates dites anciennes, c'est-à-dire de tomates fixées. Hein. Pour cela, on prend un verre, hein, dans lequel on a mis quelques centimètres d'eau, puis après avoir coupé la tomate, on y fait tomber les graines, on laisse reposer les graines dans le verre d'eau pendant, disons, 2 ou 3 jours. Donc, il peut y avoir parfois une pellicule de moisie qui se forme à la surface de l'eau. Donc là, pas de problème, c'est encore mieux. Hein. Donc, par contre, ne pas laisser trop longtemps les graines dans l'eau, parce que sinon, elles vont finir par germer. Hein. Donc attention, 2-3 jours maximum selon la température. Ensuite, vous prenez une pince, vous la mettez au-dessus de l'évier, vous y versez le verre d'eau avec les graines, vous laissez couler un filet d'eau entre dessus, et avec les doigts, vous frottez les graines jusqu'à ce que ça soit parfaitement propre. Ensuite, vous déposez les graines dans une sous-tasse, en porcelaine, en céramique, quelque chose comme ça, et puis vous les laissez sécher. Et lorsqu'elles sont parfaitement sèches, hein, mais bien sèches, vous les mettez en sachet bien étiqueté avec la date de récolte, vous entreposez vos sachets dans un endroit frais, et puis vos graines vont conserver leur pouvoir germinatif pendant environ 5 ans.
D'accord. Et alors, pour les autres légumes, on peut commencer aussi à penser aux graines, Bertrand, et à récupérer de quoi les faire ?
Alors, ouais, ça peut être un peu compliqué. Hein. En ce qui concerne les graines de tomates, c'est relativement simple. Hein. Il y a quasiment aucune pollinisation croisée à craindre. On est même obligé en serre de secouer les fleurs pour qu'elles soient bien fécondées. Hein. Mais par contre, pour les autres légumes, ça va dépendre des variétés. Bien sûr, on ne va pas récolter de graines de variété F1, de quel que soit le légume. Il y a des plantes annuelles, comme les salades, qui vont produire les graines la première année. Donc, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs variétés de salades en fleurs en même temps dans votre jardin, sinon il y a un risque de pollinisation croisée qui est assez important. Donc, pour récolter les graines, vous allez choisir les salades parmi les plus saines, parmi les plus belles, et vous les laissez fleurir. C'est tout simple, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste prévoir, en cas de pluie, lorsque c'est en fleurs, une petite protection au-dessus des fleurs. Voilà, pour pas que ça moisisse. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont envie de récolter des graines de courge. Là encore, attention, parce que là, elles se pollinisent facilement entre elles. Donc, vous risquez de pas obtenir ce que vous désirez. Attention également à ce qu'il n'y ait pas de coloquintes dans les environs, parce que les coloquintes et les couves se pollinisent très facilement. Et les coloquintes ne sont pas comestibles. Alors, le plus simple pour obtenir des graines fidèles de courge, par exemple, c'est de polliniser la fleur de courge manuellement, de protéger cette fleur jusqu'au démarrage du fruit, en repérant le fruit avec n'importe quoi, avec une petite cordelette, quelque chose. Vous laissez bien mûrir le fruit, et là, quand vous allez récolter des graines, vous êtes sûr d'avoir récolté les bonnes graines. Parmi les plantes qu'on peut récolter les graines la première année, ce sont les haricots. Il y a beaucoup de gens qui récoltent leurs haricots. Là aussi, il y a un risque de pollinisation croisée, mais beaucoup moindre qu'avec les courges. Hein. Donc s'ils sont assez distants, il n'y a pas trop de problème. Hein. Mais par contre, il faut conserver des pieds spécifiquement pour récolter les graines. Surtout pas commencer à cueillir des gousses sur ces pieds-là. Vous allez récolter toutes les gousses pour pouvoir les replanter plus tard. Donc, les grains de haricots, quand ils seront parfaitement secs, mais là, il faut qu'ils soient vraiment bien, bien secs, pour éviter la bruche, vous allez les mettre au congélateur quelques jours. Et là, vous êtes certain que les petits coléoptères ne vont pas dévorer tous vos haricots.
D'accord. Ah,
non, mais ça arrive souvent. Vous retrouvez vos haricots qui sont percés de trous. Là, c'est bon, puis ils sont foutus, quoi. Et puis, il y a des légumes qui sont bisannuels, qui ne fleurissent que la seconde année. Vous prenez, par exemple, les carottes. Donc, vous allez faire votre récolte de carottes. Vous allez sélectionner vos plus belles carottes que vous allez replanter au printemps. Donc, elles vont fleurir la deuxième année et elles vont vous donner des graines. Mais là encore, il y a un risque de pollinisation croisée avec d'autres variétés de carottes, si vous avez des variétés de carottes qui vont fleurir en même temps, mais surtout avec des carottes sauvages. Donc là, il faut parfois les isoler en les couvrant d'un voile. Donc chaque légume est un cas particulier, on ne va pas tout énumérer ici. Hein. Mais surtout, quand vous récoltez vos graines, mettez bien vos des étiquettes, hein, avec le nom de la variété, la date de récolte, hein, car les graines de légumes ne vont pas se conserver pareil de la même façon. Il y en a qui vont conserver leur pouvoir germinatif pendant un an, d'autres pendant 5 ans, pendant 6 ans, voilà. Donc il faut faire très attention à ça également.
Alors Bertrand, quelques endroits sont désertés dans le potager. Peut-on en profiter pour semer quelques légumes d'hiver et lesquels par exemple?
Ah bah bien sûr, oui, on peut encore semer ou repiquer de la mâche, des épinards, de la laitue grand-mère, de la roquette, des radis, des choux-clabus, etc. Et il y a plein de choses qu'on peut encore faire maintenant. Et puis, vous pouvez aussi semer des engrais verts pour ne pas laisser votre sol à nu pendant l'hiver. Et en plus, ça va l'enrichir en humus. Donc oui, effectivement, il y a encore plein de possibilités de semis automnales.
Et puis, j'ai entendu parler de légumes perpétuels dits vivaces. Est-ce que, comme les fleurs, on les met en place et on n'y touche plus, on en profite durant de nombreuses années? Est-ce que c'est ça?
Oui, tout à fait. Effectivement, les légumes perpétuels sont très intéressants au jardin. Ils peuvent rester en place comme les vivaces, ils se multiplient relativement facilement. Hein. Alors, par exemple, le chou d'Aubenton, hein, c'est un chou dont on mange les feuilles, un peu comme le chou-cal, qui se multiplie par boutures. Et plus on coupe de branches, plus il prend de l'envergure, et lui, il va rester plusieurs années à la même place. Et puis, il y a l'aérocambole qui forme des petites bulbilles en haut de la tige. Ces bulbilles se mangent ou se repiquent, hein, pour avoir des nouveaux plants. Dans le même principe, il y a l'oignon au cambole. Au jardin de l'ermite, nous avons également l'oignon patate, l'oignon de la Saint-Jean, encore le poireau perpétuel, la livèche, l'oseille. La rhubarbe est également considérée comme un légume perpétuel. Donc il y a beaucoup de légumes qui peuvent rester en place pendant tout l'hiver, pendant plusieurs années, sans aucun problème. Et qui se multiplient vraiment de façon abondante.
D'accord. Eh bien, Bertrand, merci pour ces conseils. Alors, puis-je vous dire à lundi, d'ici là, vous pouvez construire votre bateau, parce que là, on va se transformer en Noé bientôt. C'est vrai qu'on voulait la pluie, mais quand même pas tant que ça. Hein, mais bon.
Non, c'est parce que ça tombe sans arrêt. Le beau temps, c'est un temps qui change, donc il nous faudrait un peu de soleil entre deux.
Oui, quand même. En tout cas, très très bonne semaine à vous.
Allez, bonne semaine à tout le monde.
Merci.
Il pleut dans ma chambre, j'écoute la pluie de septembre qui tombe dans mon lit. Le jardin frissonne, toutes les fleurs ont pleuré pour la venue de l'automne et pour la fin de l'été. Mais la pluie fredonne sur un rythme joyeux. Tip et tap, tip top, et tip et tip, tip et tip et tip top, et tap, voilà ce qu'on entend la nuit. C'est la chanson de la pluie. Demain le jour fleurira sur vos lèvres, mon amour, et la pluie qui calme notre fièvre sera loin, très loin, dans la mer, voguant sous le ciel clair. Demain les bois auront fait leurs toilettes et les toits peints de frais auront un air de fête. Les oiseaux contents de ce shampoing ne se plaindront point. Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur. Douce pluie de septembre chante un air moqueur. Dans toute la campagne poussent de beaux champignons et dans la montagne le vent joue du violon. Tous les chats de gouttière chantent et dansent en rond. Tip et tap et tip top et tip et tip tip et tip et tip top et tap, voilà ce qu'on entend la nuit. C'est la chanson de la pluie. Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur. Douce pluie de septembre chante un air moqueur. Dans toute la campagne poussent de beaux champignons et dans la montagne le vent joue du violon. Tous les chats de gouttière chantent et dansent en rond. Dip tap tap dip miaou et tic tac top. Voilà ce qu'on entend la nuit. C'est la chanson la pluie.
Charles traînait sur Radio Plus. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la rage. La journée mondiale contre la rage est la seule journée mondiale d'action et de sensibilisation à la prévention de la rage. C'est une opportunité de regrouper dans une communauté les individus participants, les ONG et les gouvernements pour échanger sur leurs activités. Alors cette année, le thème de la journée est centré sur la vaccination et la collaboration. En bref, le thème nous rappelle que les points clés de l'élimination de la rage, eh bien, nous rappelle ces points clés et c'est-à-dire aussi l'objectif d'aucun cas en 2030, plus aucun cas en 2030. Et à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la rage, l'Organisation mondiale de la santé a souligné que l'éducation et la vaccination des communautés les plus vulnérables sont les deux outils essentiels pour empêcher le développement d'une maladie mortelle dès l'apparition de ses premiers symptômes, mais évitable et éliminable à l'horizon 2030. Dans un communiqué publié mercredi, l'OMS estime qu'environ 59 000 personnes meurent de la rage chaque année à travers le monde, précisant qu'environ 90% de ces décès se produisent chez des enfants vivant dans des zones rurales en Afrique et en Asie. Et il faut savoir qu'il y a dans ces zones justement beaucoup de chiens sauvages encore et qui ces enfants sont attaqués par ces chiens sauvages qui bien entendu ne sont pas vaccinés. Et puis alors, eh bien, c'est aujourd'hui la journée mondiale du droit à l'avortement. On en parlait tout à l'heure. Alors, tout au long de cette journée, des manifestations ont lieu dans le but de déjouer la remise en cause de l'avortement par toutes les forces politiques ou religieuses réactionnaires en France, en Europe aussi et dans le monde. Et c'est l'occasion de rappeler que la lutte est toujours d'actualité car selon l'organisme, près de 47 000 femmes, c'est un chiffre qui est effroyable quand même, 47 000 femmes sont mortes en 2018 des suites d'un avortement clandestin. Ça me rappelle une certaine chanson, souvenez-vous.
Mais qui a soulagé sa peine? Pour porter son bois, porte les seaux, faire une écharpe de laine. Le jour de la foire aux chevaux, mais qui a pris soin de son âme et l'a bercée dedans son lit, qui l'a traitée comme une femme au moins une fois dans sa vie. Le bois que porte Louise, c'est le bon Dieu qui le portait, le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques, elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu, moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route, passer son bras, la promener, et l'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait. Le regard bleu sur Louise, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées, et l'ont raconté leur bataille dans le salon après le thé, et les lettres qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui séparait Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver, sous la charpente, dans son lit cage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. Si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine par devant moi. Ma fille prie très fort pour que se fasse ce que le curé m'a pris là, et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a caché. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a 50 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier. On n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. La vie qu'a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a aidé.
C'était une très belle chanson de Gérard Berliner. 47 000 femmes sont mortes en 2018 des suites d'un avortement clandestin. À méditer quand même.
Mmh.
Eh bien, voilà, l'ère du temps se termine. On se retrouve, si vous le voulez bien, lundi prochain pour une autre édition. À suivre, comme chaque semaine, Kaléidoscope pour passer une heure un peu cool. Alors, j'espère pouvoir vous dire à tout de suite. Et puis, si vous nous quittez maintenant, eh bien, je vous souhaite une très, très bonne matinée et puis une très, très bonne semaine.